Bonjour, vous allez où?
Je m'appelle Valentin. Je suis avec mes parents, Laurent et Jean-Claude. Nous allons à Pézenas.
C'est sur mon chemin. Montez. Sur le bord de la route, trois silhouettes. Un jeune garçon, Valentin, l'air absorbé par son enfance. Une femme, Laurence, erratique et mélancolique. Un homme, Jean-Claude, dont la mine grognon donne à la scène un sentiment précaire. On ne sait pas si l'on assiste à un drame familial ouaté ou à une comédie burlesque. Mes autostoppeurs semblent tout droit sortis d'une des photos de l'exposition « Scène isolée de la vie ordinaire » présentée dans le réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée jusqu'au 15 juillet. Par la magie des diffusions radiophoniques, c'est jusqu'à aujourd'hui. Séance de rattrapage ou prolongation, nous recevons aujourd'hui dans l'habitacle de En route pour l'apéro le photographe Jean-Claude Delalande en famille et en studio. C'est parti.
Il faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06-06-06-06 le soir, chez moi.
J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon âme, tu es mon idéal. Je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où.
Parce que je t'aime. Parce que tu me rends heureux. Parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse encore, encore, voilà aussi.
Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport, Orly, Terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, bonne nuit.
Chérie, il y a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là, il y a un cœur dessiné au stylo bille.
Je suis enceinte. Mon amour, ta mère a téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime, appelle-moi. Je pense à toi, je pense à lui.
Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles à n'importe quel moment? Ouvrez la parenthèse, important, mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse.
Mon amour, ne m'attends pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part, mais vérifie la date sur la boîte.
N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si tu peux t'occuper du vin, tu seras en cœur, car je risque d'être crack. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes. 59 boulevard Ménilmontant, code AB 1980.
La voisine a laissé un mot sur le palier. Le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle et pense à rappeler ta mère qui me harcèle.
Le mec du cap passe entre 7h15 et 9h15. Tâche de te réveiller. En plus gros, d'une langue différente. Un truc qui n'a aucun rapport. Style, numéro de passeport.
À payer EDF, Orange, abonnement canal, plus ce cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non? Si oui, mets-le en évidence, dans le salon.
La réunion est à 19h30, précise à l'école. Le précise est souligné. F a encore appelé, m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin, tu dois mieux savoir que moi. A plus. Le plus est une croix.
Cassez 3 œufs, ajoutez 1 demi-litre de lait, incorporez 100 g de farine progressivement. Ajoutez d'un seul coup 50 g de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine et tu mélanges.
Code réservation QWXXCJ, mot de passe Casablanca, départ Orly 9h47, retour 23 à 7h15, arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3.
Une baguette, crevettes, 3 avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-écrémé bio, ciseaux bio, 7 poubelles, 50 litres.
D'une écriture différente sur le papier en tête, FXOR 75 LPMG vu 3 fois par jour. Après Zolam, 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducé.
Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
Benjamin Biolay en duo avec Jeanne Chéral. Le titre, c'est Rhapsody et cet extrait de l'album La Superbe. C'est vous, Jean-Claude Delalande, qui avez choisi la playlist comme chaque autostoppeur. Et ce titre en duo, ce Rhapsody, nous plonge instantanément, finalement, dans l'atmosphère de Scènes de la vie ordinaire, cette exposition photo qui était présentée jusqu'à aujourd'hui à Pézenas et alentour.
Oui, tout à fait, c'est une chanson qui m'est chère, qui me parle. Et c'est vrai qu'elle colle parfaitement avec mes photographies.
Les photographies de scènes de la vie ordinaire appartiennent à une série que vous avez commencée en 1993 et que vous poursuivez encore aujourd'hui. C'est une série en noir et blanc dans laquelle, dans un décor qui peut changer, mais qui est souvent un décor domestique ou en tout cas familier, vous vous mettez en scène avec votre compagne et Valentin dans des situations... Quelle situation, en fait ?
La situation du quotidien, principalement. Oui, de la vie quotidienne. Ça peut être un déjeuner, un dîner, une scène intime dans la salle de bain. Ça peut être des jeux en famille. C'est à chaque fois des autoportraits, des mises en scène dans des lieux différents, des décors de théâtre ou de cinéma.
Oui. Alors, effectivement, les mises en scène, ce sont des photos de famille, des photos intimes et d'intérieur. La différence entre des photographies amateurs que l'on trouve dans les albums de famille, la mise en scène est sans cesse très léchée. Vous êtes chacun dans des positions assez figées, dans des jeux de regard particuliers, et on a une c'est une mise en scène de cinéma, presque.
Oui, tout à fait. Oui, la composition joue un grand rôle dans l'image. Je pense que si la composition n'était pas plus ou moins parfaite, les photos tomberaient et les gens ne rentreraient pas dans cet univers, dans une histoire. Je suis assez inspiré par la peinture, surtout, et le cinéma. Où chaque détail est important, on prend le temps de placer les gens, de placer le décor, soit en peinture, en cinéma.
Alors effectivement, c'est pas le cliché spontané et pris à la volée, c'est une organisation pour mettre en place la composition, pour que votre compagne apparaisse à un certain endroit, Valentin, votre fils, qui aussi fait partie, en tout cas dans les dernières séries, des personnages de ces scènes de la vie conjugale, ordinaire... et vous mettez en scène et vous utilisez un retardateur pour vous prendre, du coup, tous les trois.
Oui, l'appareil sur pied. Je lui fixe un retardateur à l'époque, maintenant, des retardateurs électroniques qui sont plus fiables. Mais à l'époque, c'était des retardateurs mécaniques qui se déclenchaient normalement au cours de 10 secondes. Et souvent, ils se déclenchaient avant. Il y avait une surprise. Il y avait un imprévu et il y avait un accident, souvent, qui était souvent favorable à l'image. Une certaine spontanéité. Maintenant, c'est un peu plus précis avec les retardateurs
avec
électronique avec le numérique aussi, où on peut aussi vérifier l'image après la prise, vu à l'époque on ne savait pas.
C'est vrai qu'on faisait plusieurs photos pour être sûr qu'il y en ait au moins une de bonne avant de développer la pellicule. Il y avait vraiment l'image latente à l'époque, donc on ne savait pas ce qu'allait donner le résultat, s'il allait être bon ou pas. Ça arrivait que des fois on refasse les prises de vue, parce qu'il n'y en avait aucune qui nous plaisait. Donc,
Et puis des fois on ne pouvait pas les refaire, parce que c'était souvent des photos de vacances, dans des lieux à chaque fois différents. Et quand c'était raté, c'était raté.
Mais des fois tu développais en vacances.
Oui, c'est vrai que j'amenais les cuves, j'amenais les produits chimiques et je développais pour être sûr, pour pouvoir éventuellement refaire la prise de vue.
Vous ne partiez pas léger,
Jacques Abarnéo dans la valise. Non.
C'est vrai.
Et vous êtes passé de l'argentique au numérique sans problème sur cette série-là?
Un petit peu. Ça m'a un peu gêné. J'avais l'impression de
par
tricher.
Par rapport au rendu aussi.
Puis de tricher aussi. J'ai l'impression que ça devenait presque trop facile. Et puis il n'y avait pas ce mystère ou cette surprise qu'on a en argentique où effectivement des fois on développe pas tout de suite. Ouais,
parce que là on peut voir même au niveau du cadrage, il y en a un qui est un tout petit peu décalé, enfin pas bien, parce que c'est des fois un peu au centimètre près. Donc là on peut refaire en se disant tiens, poussons un tout petit peu pour que tu sois vraiment bien dans le cadre. Et avant, bon, c'était plus la surprise.
Honnêtement, j'aimais bien. Rien n'empêche de
continuer. Mais
quand on a commencé au numérique, après c'est difficile d'en venir.
Tellement plus rapide.
On faisait aussi des photos avec des chambres photographiques. Alors là, l'image est inversée de haut en bas et de droite à gauche. Et en plus, vous avez un rideau, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout ce que vous photographiez.
Oui, les chambres photographiques, ça ressemble un petit
avec
peu aux appareils photo qu'on voit dans les westerns, où le photographe met la tête sur le grand drap noir et regarde à l'intérieur de la chambre.
Ouais, c'est ça.
Il y avait un plaisir aussi physique à photographier qu'on a peut-être moins en argentique, parce qu'il fallait déplacer l'appareil. Qui est assez lourd, et puis bon, même au développement, après, il y a quand même un aspect physique qu'on ne retrouve plus, ou même sensoriel.
Oui. On parlait des odeurs de chimie, argentique,
le développement.
Le révélateur, le fixateur.
Alors c'est vrai que c'est toute une organisation, effectivement, presque de tournage de cinéma, quand vous mettez en scène le décor, l'appareil sur le pied, chacun sur sa position, son geste, son attitude.
La lumière aussi, c'est important pour toi, la lumière.
La lumière, c'est très important.
C'est une organisation comme un tournage.
Comme un tournage de cinéma, un peu plus léger quand même.
Et là, avec le numérique, vous regardez instantanément et le résultat et vous le refaites ou non ?
Oui.
Et est-ce qu'il y a ce type d'accident qui se produit aussi au numérique ? Vous parliez des accidents qui se produisaient en argentique et en chambre, ou effectivement sur une des parmi les photos qui sont présentées, en tout cas dans cette série-là, il y a un effet spectral, soit de vous, Jean-Claude Delalande, soit de vous, Laurence Clivet, où vous disparaissez. On sait que quand on bouge sur une photo, du coup, on devient un peu spectral sur...
Oui, je suis toujours avec des vitesses lentes, c'est-à-dire que l'obturateur enregistre l'image pendant plusieurs secondes, ou même une trentaine de secondes si on a envie, et tout ce qui bouge devant l'appareil disparaît, jusqu'à complètement même, parce que si vous vous déplacez assez rapidement, avec une vitesse très lente, le personnage disparaît. Alors après, il faut doser le déplacement du personnage dans le cadre, pour qu'il soit encore visible, et puis qu'il donne des fois des aspects un peu... fantôme.
Oui, donc c'est sûr qu'en numérique, c'est plus facile de maîtriser ce genre de choses, parce qu'on voit le résultat. On voit le résultat, donc on se dit, bon, vu le résultat, il faut être un peu moins longtemps là, un peu plus longtemps là, alors qu'en argentique, c'était un peu plus le hasard quand même, c'était plus approximatif.
J'ai réalisé une série comme ça, où j'étais seul, où je me dédoublais en étant d'un côté et de l'autre. Je restais 5 secondes d'un côté et 5 secondes de l'autre. Du coup, il y avait deux personnages qui s'occupaient l'un s'occupait de l'autre. Et c'était toujours dans le quotidien, mais là, cette fois-ci, j'étais seul.
Cet exercice formel, c'est un moteur pour prolonger une série ou pour creuser, en tout cas, une démarche artistique ?
Ouais, je crois que la technique est importante. Et puis, avec la technique, on découvre des choses. Et c'est un challenge à chaque fois aussi, d'essayer de nouvelles choses techniquement. qui apporte des idées, souvent apporte des idées.
Alors sur la mise en scène, je voudrais qu'on en parle un petit peu au niveau du rendu. Moi, j'ai découvert cette exposition et votre travail sur les cimaises de la médiathèque Edmond Charlot à Pézenas. Et c'est un travail sur lequel, je pense qu'il y a une vingtaine de photographies qui sont à Pézenas. Il y en a 40 en tout sur la série qui a été présentée sur le territoire, dans d'autres bibliothèques. Mais sur celle-ci, on est tout de suite interpellé par l'image parce que votre personnage, Jean-Claude Delalande, nous regarde fixement. Donc c'est vrai que ça, c'est déjà une première approche. Et on voit effectivement, on se projette très, très vite dans cette intimité de la famille. Je ne veux pas rentrer dans un débat anti-mariage gay et pro-maman, pas un maman, une papa, un enfant. Non, mais il y a cette familiarité qu'on ressent tous sur cet univers familial. Et on vous retrouve donc d'une à l'autre, on s'attache en fait très rapidement à vous, et on s'attache à vous, on passe d'une photo à l'autre, on vous retrouve dans d'autres situations, et il y a quelque chose à la fois de très drôle, puisque vous avez une tête impassible sur chaque photo, où on a l'impression qu'on a découpé peut-être votre visage pour le mettre à chaque fois dans chaque photo, comme les jeux d'enfants où on change juste le costume et le décor et où on garde la tête du personnage. Et ça fait un effet très drôle sur cette série qui pourtant a un côté très à la fois élégant, froid et léché.
Oui, effectivement, le visage est toujours le même, l'expression ou la non-expression est toujours la même.
Il se concentre toujours avant la photo pour faire justement cette tête.
Cette non-expression, c'est le plus neutre possible. Voilà, et oui, mais si on regarde bien, le temps a passé et les rides sur le visage sont apparues petit à petit au nom de la série, parce que depuis 25 ans ou 23 ans. Et bien, ce qui est intéressant, c'est aussi un souvenir. On voit l'enfant Valentin grandir, nous vieillir. Et puis, je trouve que ça, même pour lui, pour Valentin, je pense que ça laissera une trace plus tard. Alors, voilà, mes parents.
Est-ce que, Valentin, tes parents, dans leur vraie vie, ressemblent aux photos que vous prenez ensemble ?
Bah, pas vraiment, parce qu'ils ne sourient jamais sur les photos. Tandis que dans la vie, ils sourient plus.
C'est déjà plus rassurant.
Fais attention à ce que tu dis.
Cette série, effectivement, elle, vous l'avez dit, elle s'étend depuis plusieurs années et c'est là où on revient à la chanson de Biolay. Il y a ce rapport au couple et ce rapport au temps. Vous y mettez quelque chose de foncièrement personnel, puisque vous construisez ces mises en scène ensemble, Laurence et Jean-Claude. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous jouez de votre couple et de votre histoire ensemble avec ces photos, ou est-ce que c'est vraiment un jeu purement formel qui va être dans une expression artistique et dans la construction de cette série?
C'est un jeu, je pense, quand même. Même si c'est des situations plus ou moins réelles, elles sont toutes imaginées.
Des fois, elles sont inspirées de la vie quotidienne, ouais. Mais bon, c'est quand même... c'est toujours, oui.
Ouais, parce qu'on se mine de rien, je me regarde, qu'on se regarde, il y a une analyse critique quand même sur le couple, sur mon propre couple. Et y a des situations qu'on vit, que je remets en scène après, avec la mémoire. Mmh. Les situations qu'on a vécues, je les remets en scène. Du coup, c'est... Des fois, non. Mais c'est, bon, c'est des... Comment dire, c'est un remake de situations réelles.
Alors, ce que je trouve aussi très cinématographique dans ce travail et dans cette série, c'est le côté, et vous m'aviez dit que vous étiez cinéphile, c'est le côté hitchcockien avec dans ces scènes où on voit Hitchcock apparaître dans ses films. On est tous en train de guetter, alors dans ce film-là, dans Fenêtre sur cour, où est-ce qu'il va apparaître, etc. etc. On a aussi le sentiment que vous avez une espèce de perversité hitchcockienne à jouer avec le spectateur, puisqu'effectivement, le regardant, puisque vous l'interpellez en regardant souvent, la plupart du temps, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, fixement la caméra, et finalement vous nous interpellez.
Oui, dans la plupart des photographies, je regarde le spectateur. Pas au début, c'est au début, le regard n'était pas forcément fixé à l'appareil. Et puis, après plusieurs expositions, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était plus drôle quand je fixais l'appareil. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et maintenant, je suis un peu forcé de fixer cet appareil. Je suis là et pas là. Et en même temps, j'ai l'impression que j'essaie de mettre une tension dans les images pour que le spectateur se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un drame plus tard ou...
Oui, c'est vrai qu'il y a une expo, quand tu avais exposé au MAMAC à Liège, on était, pour le vernissage, on était à côté des photos, et les gens regardaient, et puis c'est eux, il y en a qui nous ont interpellés, il y a une dame qui nous a dit, en fait il y a une photo où il est sur un fauteuil roulant, elle a dit, oh, quand je vous ai vu là sur cette photo, j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, et après j'étais rassurée, je vous ai revu debout, ça m'a fait plaisir, enfin bon, c'était marrant quoi.
Là, comme et, vous disiez, les gens s'attachent au personnage, ouais. Bien que... Ils ont peut-être pas grand chose d'attachant.
Non, mais ouais, ça les touche quand même un petit peu. Ouais.
Oui, on se projette et il y a cette familiarité, effectivement, où on vous suit, on s'attache tout de suite et on se dira, où ils sont là et elle, alors qu'est-ce qu'elle pense? Elle a l'air mélancolique sur celle-là et sur celui-là, c'est drôle parce que le petit garçon, il rigole, il a l'air de se désintéresser complètement de ce que font ses parents à côté et donc de vignette en vignette, comme sur une bande dessinée aussi, des fois, comment ça s'appelle ces petits livres
Les flipbooks.
Les flipbooks. Ouais. Il y a un côté aussi où on se demande mais qu'est-ce qui va se passer après.
Ça peut être un roman photo aussi, ouais, quand, à l'époque. Des romans photos. Ouais.
Un petit peu.
Complètement. Avec ce, le noir et blanc était un parti pris que vous avez choisi dès le départ.
Oui. Ah, ça donne le noir et blanc, ça donne.
T'as toujours préféré le noir et blanc. Enfin, en argentique, et t'avais du mal à photographier en couleur. T'as toujours eu plus de mal.
Ça donne du mystère. C'est-à-dire que, on voit en couleur. À part peut-être les chiens qui vont noir et blanc. Et ce côté noir et blanc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les gens voient en couleur. Ouais. Déjà, c'est quelque chose qui est en décalage par rapport à la réalité, le noir et blanc.
Il y a un côté intemporel aussi plus. Plus intemporel par rapport aux vêtements, parce que quand il n'y a pas la couleur... On peut moins dater, donc ça donne plus d'intemporalité à la photo encore, je pense.
Ouais, c'est vrai que par rapport aux pellicules ou au traitement couleur, on arrive à dater. Il y avait des Kodachrome, les Tachrome, etc. Et on arrive à dater les photographies avec les teintes, tout simplement. Parce que l'or et blanc, c'était vraiment intemporel.
Il y a un côté plus intemporel, en effet. Quand vous recevez une demande pour exposer dans un lieu ou dans l'autre, comment vous faites pour sélectionner les photos que vous allez proposer parmi les plus de 200 photos que vous avez dans cette série?
Dans les 200, je tire toutes les photos, mais en petit format. Et je tire quelques-unes en grand format, celles qui me semblent le plus représentatives de... Et après, ce que j'aime, moi, c'est qu'on me demande, qu'on me dit, j'aimerais bien, l'organisateur, le collectif, me dise, j'aime bien celle-ci, et je fais le tirage spécialement, en grand, pour l'expérimentation.
C'est souvent les gens qui sélectionnent les photos, c'est vrai.
J'ai du mal à sélectionner les photos, c'est pas évident de choisir, surtout quand il y en a...
Plus de 250.
Et puis, il y a des photos que j'aime moins, et puis il y a des gens qui aiment beaucoup ces photos que j'aime moins, alors du coup ça me rassure, ça j'aime bien.
Et dans l'accrochage, il n'y a pas de chronologie, puisque vous ne les datez pas.
Non, non, ni daté, ni situé.
L'exposition et la série s'appellent « Scènes isolées de la vie ordinaire » de Jean-Claude Delalande. Et vous pouvez encore aujourd'hui, si vous êtes dans votre voiture, vous aussi, vous arrêter dans une des médiathèques du réseau, des médiathèques de l'agglomération Hérault Méditerranée. À tout de suite. Thank you.
écoutez Radio Pays des Héros, nous sommes en route pour l'apéro avec Jean-Claude Delalande et sa compagne et son fils. Jean-Claude Delalande, avec votre air à la Buster Keaton, vous avez tapé dans l'œil d'un visiteur de la médiathèque de Pézenas, l'écrivain et cinéphile Guillaume Guéraud. Il a écrit un texte sur l'exposition, mais je crois que vous ne vous êtes jamais rencontrés.
Oui, tout à fait.
Alors, je vous propose quelque chose. Sur le bas-côté, à quelques mètres, il y a une cabine téléphonique. On va s'arrêter et on va lui passer un coup de fil. Bonjour Guillaume Guéraud.
Bonjour. Ça va, vous n'êtes pas trop serré dans cette cabine là ?
Eh bien écoutez, on s'est mis à l'aise finalement. On va passer un par un. Guillaume Guéraud, je suis avec Jean-Claude Delalande. Vous avez découvert son exposition à la médiathèque de Pézenas. Et quand vous avez regardé cette série photographique, de mise en scène photographique, ça vous a quand même vous a suffisamment plu pour que vous écriviez un texte dessus ?
Ouais, mais d'abord, ça m'a vachement fait rire. Moi, je connaissais pas du tout son travail. Après, bon, moi, je suis en même temps assez ignorant dans tous les travaux photographiques et compagnie. Bon, voilà. Mais ça m'a vachement plu. Ça m'a vachement fait rire. Et en même temps, plus j'y repense et plus ça m'angoisse. Hein. Parce que, alors voilà, je ne sais pas si vous avez déjà décrit son travail, je suppose que oui, mais voilà, c'est quand même un personnage qui fait tout le temps la gueule, en tout cas sur les photos, hein, et dans des situations pourtant hyper banales, enfin je veux dire du quotidien, quoi, c'est-à-dire on le voit prendre son petit déjeuner, on le voit faire un barbecue, on le voit... aller se baigner à la mer ou étendre son linge ou on le voit devant sa machine à laver alors avec je sais pas sa femme ou peut-être leur enfant ou même je crois qu'à un moment donné on le voit chez ses beaux-parents et lui il a une espèce de masque c'est tout le temps le même en tirant la tronche et du coup alors premier truc comme ça c'est drôle. Et après, ça fout un peu la trouille, quand même, non ?
Oui, je trouve, moi aussi, je suis assez déséquilibrée, et en tout cas en équilibre précaire devant ces photos-là, mais je n'arrive pas à m'en détacher, et je vais toujours me raconter une histoire derrière. Alors, Guillaume Guéraud, dans le texte que vous avez écrit sur l'exposition, de façon complètement spontanée, hein, je rappelle, quand vous avez après l'avoir visité, vous écrivez « Jean-Claude Delalande tient bizarrement en équilibre sur le fil improbable qui pourrait relier Buster Keaton et Ingmar Bergman ». Vous avez fait un lien cinématographique, vous, tout de suite.
Oui, voilà. Alors, bon, après, voilà, c'est tout le contraire du cinéma, la photo, hein, puisque, par définition, ça ne bouge pas, alors que le cinéma, ben, c'est des photos à la base, mais qui ont un mouvement, donc voilà. Mais, bon, moi, j'ai une culture surtout cinématographique, et Buster Keaton, ça semble évident, parce que, voilà, il a une espèce de visage sur ses images, en tout cas... enfin l'homme qui ne rit jamais quoi, c'est genre Buster Keaton quoi ça. Et puis Ingmar Bergman c'est à cause des situations que Jean-Claude Delalande met en scène quoi, c'est des scènes du quotidien, de vie de couple, voilà donc ça rappelle un peu en plus. Alors j'ai oublié le titre de l'expo, mais ça me rappelait scène de la vie conjugale. De Bergman. Quoi.
Effectivement, voilà. Les titres sont voisins, puisque le titre de l'exposition, c'est Scènes isolées de la vie ordinaire.
Ouais, ben voilà, donc il y a du lien, quoi. Bon, après, voilà, c'était aussi un peu pour rire, parce que le fil, j'ai mis un équilibre sur le fil entre Buster Keaton et Bergman, c'est vraiment improbable, quoi.
Hein. Absolument.
C'est pas possible au cinéma, ça, entre Bergman et Buster Keaton, mais en photographie, ouais, pour moi, ouais, ça correspond à ça, quoi. le travail de Jean-Claude Delalande.
Dans le texte que vous avez écrit, moi, ce que je relève aussi, c'est que vous nous dites « Regardez bien, il est partout présent, mais personne ne le voit, ou on ne voit que lui, alors qu'il est toujours absent. »
Ouais, mais ça, c'est un côté un peu angoissant. Alors bon, c'est marrant et curieux et tout, mais il y a un côté un peu fantomatique, hein. C'est-à-dire, oui, je dis, il est sur chaque photo, hein, bon, même s'il n'est pas vraiment, il n'est jamais tout seul, il me semble qu'il y a toujours quelqu'un, mais en tout cas, lui est tout le temps là, et on ne voit que lui en tant que spectateur de ses photographies, alors qu'en même temps, il est absent, à cause de son air, quoi, il a vraiment un air absent. Et puis, et à côté de ça, il est aussi là. Mais l'entourage qui est avec lui sur les photos, moi j'ai l'impression que personne ne le voit. Voilà, que les spectateurs de ces photos, de ces images, le voient, mais que les gens qui l'entourent sur les photos n'ont pas l'air de le voir, quoi. Pour moi, c'est un peu la définition du fantôme, quoi.
Oui, il y a un jeu de regard dans chaque mise en scène, effectivement, qui peut donner à penser que ce personnage est oublié. En tout cas, même si Jean-Claude Delalande fait une figure grognon dans ses photos, sachez, Guillaume Guiraud, que quand on l'a en face de soi, c'est quelqu'un de sympathique et d'agréable. Il paraît que le sourire s'entend à la radio, je vous le passe.
Ah, ça va.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Ben, je tenais à vous remercier pour votre texte, un magnifique texte. Avec
non,
des
mais
références,
ça, c'est à cause de vos photos, hein, à la base. Hein. Ouais. Voilà.
Mais bon, les références me plaisent beaucoup.
Bon, mais tant mieux.
Merci.
Vous reconnaissez bien votre travail, Jean-Claude Delalande, dans ce regard de Guillaume Guiraud sur votre travail?
Oui, une grande partie sur l'aspect fantôme du personnage, ouais, qui n'est pas présent, là, une sorte de revenant un peu. Ouais, sur ce côté-là, puis aussi le côté cinématographique. Ouais. Qui est intéressant. Bien que, oui, Buster Keaton, c'est sûr, c'est une de mes références, mais aussi des films noirs, comme des films d'Hitchcock ou Frank Capra, Claude Chabrol aussi, ou des auteurs de ce genre. Henri-Georges Clouzot, voilà. Je me sens assez proche d'Henri-Georges Clouzot au niveau de l'ambiance et des lumières.
Alors, ce qui peut vous rassembler, Jean-Claude Delalande, aussi avec Guillaume Guiraud, c'est que Shots, le dernier roman hein, de Guillaume Guiraud, qui est un polar, qui est campé dans le milieu cubain de Miami, est parti sur une mise en forme originale, puisque Guillaume Guiraud, votre roman est comme un journal de bord d'un personnage dans lequel il consigne des photos en tant que photographe amateur et des notes, des légendes et des notes sur ces photos. Et ça a été, le principe de ce dernier roman.
Ouais, alors bon, j'essaie de m'amuser un peu, par rapport aux photos, mais le principe, ouais, c'est que c'est un roman photo sans photo. C'est-à-dire, c'est raconté par un espèce de photographe amateur qui mène une enquête photographique. En gros, il part à la recherche de son frère qui a disparu à Miami, aux États-Unis. Et c'est un peu sur le principe à la base de Blow Up là, d'Antonioni, où voilà, c'est un photographe qui, pareil, enfin, prend des photos, mène une enquête à partir des photos qu'il a prises, etc. Bon, sauf que moi, quand je dis que c'est un roman photo sans photo, c'est-à-dire c'est l'histoire de ce photographe qui mène cette enquête photographique, il aligne ses photos dans un carnet de bord, un journal, tout ce que vous voulez, et il est légende. Sauf que à la fin de son enquête, toutes ces photos disparaissent, voilà. Et il ne reste plus que les légendes, et il espère que malgré l'absence des photos, ben, les légendes vont malgré tout raconter l'histoire, quoi. Hein, même si elles ont disparu. Et bon, évidemment, alors voilà, l'histoire aussi, c'est de on découvre aussi, à la fin du roman, pourquoi ces photos ont disparu, quoi. Mais le principe, voilà, c'était de jouer sur sur l'absence d'images, quoi, hein, sur l'absence de photos, voilà.
Alors le prétexte et la mise en forme étaient culottés au départ, effectivement, de proposer au lecteur un roman photo sans photo, mais finalement vous vous êtes laissé emporter dans la noirceur de l'intrigue, parce que c'est un roman noir.
Comment ?
Vous vous êtes, au départ, la forme du roman était un peu farceuse, mais vous vous êtes laissé dans l'écriture entraîner dans les noirceurs de cette histoire.
Oui, ben, c'est-à-dire, voilà, moi, je trouvais le principe... En fait, je cherchais un truc hyper original dans la forme, hein, pas dans le fond. Je me disais, bon, voilà, je sais plus comment l'idée m'est venue, du roman photo sans photo, mais je me disais, tiens, ça n'a jamais été fait, quoi, et donc j'ai trouvé l'idée géniale, le principe génial, et même plutôt amusant, tout en étant super original. Sauf que voilà, après, moi, les romans que j'écris d'habitude sont plutôt des romans noirs, violents, plutôt brutaux et compagnie. Et donc, j'ai transformé. Enfin, à partir de ce principe, j'ai quand même écrit une. Enfin, à partir de ce principe plutôt drôle, même s'il est bancal. J'ai écrit une histoire noire et brutale, quoi.
Alors, Shots est paru aux éditions du Rouergue. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. À la médiathèque de Pézenas, il y est aussi. Il est à dévorer sous les palétuviers cet été. Et vous verrez, si vous prenez ce roman entre les mains, qu'il y a un mécanisme de lecture qui se met en place, qui est très curieux. C'est cet aller-retour que l'on fait en lisant les notes, les légendes et finalement la trame romanesque de ce roman et ces cases blanches où les photos ont disparu.
Ouais, mais alors justement, c'est un peu tout le contraire d'une expo photo, en fait, puisque là, il n'y a pas d'image, il y a les cadres, les photos sont absentes et il n'y a que les légendes dessous, enfin sous un espace vide, quoi. Et la plupart des lecteurs... me disent que même s'il n'y a pas les images, il leur suffit de lire les légendes pour voir les images qui pourtant sont absentes. Voilà. Ce qui est tout le contraire d'ailleurs de l'expo de Jean-Claude Delalande, puisqu'il me semble qu'il n'y a pas de légendes, hein. il n'y a que les photos. Et là, par rapport à son travail photographique, il suffit de regarder ces images pour se faire sa propre légende, ou en tout cas s'inventer une histoire qui correspond, quoi.
Absolument, hein, c'est le mécanisme inverse.
Étonnant, quoi.
Merci beaucoup, Guillaume Guéraud, de nous avoir rejoints sur la route.
Merci à vous et à Jean-Claude Delalande pour son boulot, quoi.
Merci à vous.
Merci, Guillaume. Puis bonne chance pour ton roman.
Ah, merci.
J'aimerais bien poursuivre une petite minute avec vous, Jean-Claude Delalande, sur cette histoire, effectivement, de légende, de photos. Vous ne donnez pas de titre à vos photos ?
Non, comme disait Guillaume, je crois que les photographies n'ont pas besoin de titre, sauf uniquement pour les identifier, mais chacun doit faire son histoire de l'image, se l'approprier ou pas, mais le titre n'apportera rien d'autre à l'image. Même les dates.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous ne mettez pas les dates non plus
Non plus. Déjà, j'ai aucune mémoire des lieux et des dates. Du coup, ça m'évite de rechercher dans mes archives pour les identifier. Je leur donne uniquement pour moi un nom qui n'en est pas. Il y a une photo avec une échelle. J'appelle l'échelle, tout simplement.
Ou le parasol.
Ou le parasol, voilà. Tout à fait, ouais.
Restez avec nous, vous êtes en route pour l'apéro. Dans cette émission, c'est toujours l'invité qui choisit sa musique et qui fait sa playlist. Pour le troisième morceau que nous allons écouter, Jean-Claude Delalande, vous avez choisi les objets, Philippe Catherine.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica. Mais 16 outils pour quel jardin, je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir. Et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là. Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens, pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes ni la cigarette
et la maison qu'il achètera et le gazon qui
sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront. Puis un jour ils mourront et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.
Nous sommes toujours dans notre blabla car sur Radio Pays d'Hérault et on vient d'entendre Philippe Catherine, extrait de son dernier album. Le titre, c'est Les Objets. Jean-Claude Delalande, j'ai envie du coup de vous faire parler de cette autre série photographique que vous mettez en œuvre qui s'appelle Le Magicien Oz, qui est une série photographique cette fois-ci qui est dans un traitement couleur et qui est délibérément burlesque, en tout cas me semble-t-il, puisqu'elle est basée sur des diptyques de photos où l'on vous voit sur une photo en magicien avec un chapeau sur la tête et sur l'autre photo on voit que sort du chapeau un objet complètement improbable et surtout disproportionné.
Oui, c'est une série récente que j'ai dû commencer en début d'année. J'en ai fait quelques-unes l'année dernière. Oui, j'ai trouvé ça drôle. En vrai, c'est venu d'une idée. Je suis assez affaire, assez vêtements. Et j'ai beaucoup de vêtements chez moi. Et je les mets, je me les associe quoi, pour faire des tenues, des costumes. Et au bout d'un moment, j'en ai eu tellement que j'avais envie de les photographier, ces tenues, pour savoir quoi, qui allait avec quoi, est-ce que le chapeau allait bien avec la chemise, le pantalon, etc. Et alors ça a commencé comme ça, avec les chapeaux. Et puis je me dis pourquoi pas faire un diptyque avec ce personnage, ce magicien, avec le chapeau, et qui fera apparaître dans une deuxième photo un objet quelconque. Ça peut être une poubelle, une bouée, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sortir d'un chapeau d'un magicien. Un lapin, ça serait trop simple. Là, c'est des choses ouais, effectivement disproportionnées ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme une ventouse.
Oui, ce chapeau, on dirait un petit peu le sac de Mary Poppins, c'est-à-dire qu'il en sort des objets à la fois incongrus et surtout hyper volumineux, évidemment, et qui n'auraient jamais pu être contenus.
Il y a une bicyclette. Alors, pour la bicyclette, je me suis habillé en cycliste, effectivement, le cuisinier, je suis sorti, je ne sais plus, de chapeau, des choses d'énormes, une cuisinière, par exemple. Et ouais, alors au début, c'était une tenue tout à fait normale, qui n'avait aucun rapport avec l'objet. Et vers la fin de la série, je trouvais drôle de s'habiller en fonction de l'objet qui allait apparaître. me souviens plus très bien ce qu'il y avait, mais en tout cas, je me souviens du vélo, du maître-nageur avec sa bouée. Voilà.
C'est une série qui est plutôt ludique, c'est une série jeu pour vous, celle-ci, Le Magicien Oz?
Oui, c'est pour rire. En tout cas, toutes mes photos, j'espère qu'elles font un peu rire quand même. Même si des fois elles sont dramatiques, mais c'est déjà pour s'amuser. La photographie est un amusement. Comme. J'ai l'impression d'être un enfant qui s'amuse à créer des personnages, des situations.
Qu'est-ce qui met en mouvement la démarche de la reproduction? Refaire des mises en scène, représenter effectivement des personnages qui sont les mêmes, mais dans des situations différentes.
C'est l'effet série, parce qu'une ou deux photos ne marcheraient pas, puis ce ne serait pas drôle. Là, il y a aussi une notion de temps. Cette série comporte une cinquantaine d'images, 50 images avec des tenues différentes, des objets différents. On pourra dire que ça peut être lassant au bout d'un moment, mais moi, ça m'amuse. Plus il y en a, plus je suis content, plus c'est drôle. Par contre, il y a un moment où il faut s'arrêter, où je sens qu'il faut s'arrêter, que j'ai plus l'envie de... ça m'amuse plus. Et bon, ça peut être au bout de 30 photos, au bout de 50. Mais à un moment, faut que j'arrête, quoi. Parce que je m'amuse. Il faut que je m'amuse.
Alors, sur la série de scènes de la vie ordinaire, ce sont plutôt les décors qui sont les déclencheurs des séries. Et sur Le Magicien Oz, on peut dire que ce sont les accessoires, que ce soit les vêtements ou d'abord, puis les objets.
Ouais, c'est un peu différent. Là, je suis seul dans Le Magicien Oz. Parce que l'autre série du quotidien, je suis toujours entouré de ma famille, de ma compagne et du petit Valentin. Et là, ce sont les lieux qui m'inspirent, les situations qui m'inspirent. Et comme un décor de théâtre ou de cinéma. On essaie de se caler dans ce décor en essayant de raconter une histoire au fil du temps.
Et là, ce sont plutôt les accessoires en tant qu'objets qui vont servir, et les vêtements qui vont servir sur Le Magicien Oz.
Voilà.
Et il y a une autre série aussi que vous avez entrepris de composer, c'est la série Asymétrie. Alors là, c'est presque une expérience, c'est encore différent, c'est une autre série, mais l'expérience est un petit peu différente et nous renvoie aussi à une vision de nous-mêmes.
Oui, c'est une série encore par hasard que j'ai découvert en me regardant dans la glace, pas le matin forcément. Et effectivement, je me suis aperçu, mais ça faisait longtemps que je m'étais aperçu que j'étais asymétrique.
Même après plusieurs minutes, quand vous avez bien défroissé de la nuit.
Ouais.
Et voilà.
Et je trouve qu'avec le temps, on est de plus en plus asymétrique.
Ah oui, vous pensez?
Ah oui, je suis sûr après l'expérience. Et bon, j'ai essayé sur moi, et effectivement, je suis découpé photographiquement le visage en deux. J'ai inversé les images, j'ai fait deux faces droites et deux faces gauches. Cette série se compose d'un triptyque. Au centre, il y a l'original. Et effectivement, il y a vraiment une différence.
Alors effectivement, là, sur la série Asymétrie, ce sont des triptyques. Sur l'image du centre, qui est prise de face style photomaton, finalement, en tout cas portrait plein face. Et de chaque côté, de part et d'autre, on a notre visage comme s'il était parfaitement symétrique. Donc comme si le côté droit était parfaitement symétrique avec notre côté gauche et inversement sur l'autre photo. Et là, c'est très curieux quand on observe cette série de voir que finalement, ça ne nous arrangerait pas la symétrie.
Non, du tout. Je pense que c'est d'être asymétrique, c'est ça qui fait notre symétrie, quoi, si on peut dire. Parce que j'ai essayé sur une quarantaine de personnes, effectivement, c'est pas flatteur d'être symétrique, hein. Que ce soit de symétrie de droite ou de gauche. Et c'est vrai que les gens ont un moment de rejet, en se voyant, vraiment, ils ont l'impression qu'ils sont déformés. Et pourtant, il n'y a aucun trucage, j'ai juste inversé les deux faces.
Alors c'est très drôle parce qu'on voit bien que vous avez inversé les deux faces par rapport aux cheveux des gens. Parce que du coup ça leur fait des coiffures très très bizarres. Par exemple si on a l'arrêt sur le côté et que vous associez nos deux mêmes profils, du coup on a pas une raie sur le côté mais une espèce de chignon comme ça coque sur le dessus de la tête, une banane. Voilà, c'est ça.
C'est ça.
On tourne dans les années 60.
Là, vous avez invité d'autres personnages. Vous avez ouvert le cercle familial, à la fois, vous, l'autoportrait par rapport au magicien Oz, du cercle de la famille par rapport aux scènes de la vie ordinaire. Et vous avez invité, vous avez photographié donc d'autres gens. Ça a resté aussi des proches où vous avez ouvert et fait l'expérience avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément.
Bah, y a des proches, hein. Y a la belle famille, ma famille proche.
Ah, c'est toujours bien la belle famille pour faire des famille, expériences.
Mais ils veulent plus me parler. Et puis mes collègues de bureau. Des amis proches. Et puis des amis d'amis. Voilà. Et puis voilà. Quoi. Mais c'est des gens qui sont assez proches. Quoi. Mais mes collègues, c'était assez drôle. Quoi.
Vous continuez à travailler? Vous ne vivez pas que de la photo?
Non, je travaille dans une compagnie d'assurance depuis des lustres.
Et vous avez fait votre coming out dans votre, au sein de votre bureau. Les uns et les autres connaissent votre travail photographique?
Non, pas trop. Pas trop, je pense pas. Je crois qu'ils ne sont pas assez curieux. Bon. Pourtant, il y a quelques photos dans mon bureau, mais je pense que ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, vous n'avez pas fait une expo dans votre entreprise?
Si, j'en ai fait une, mais dans l'ancienne entreprise qui a été rachetée par la plus grosse entreprise qui a été mangée, qui était une entreprise plutôt familiale, où effectivement, là, j'exposais, je prenais des collègues, et les gens connaissaient mon travail, effectivement.
Alors, je me tourne vers votre compagne, Jean-Claude Delalande, Laurence Clivet, parce que vous êtes, parce que je veux parler métier maintenant. Je sais que tous les deux, vous êtes rencontrés à l'école de photo. Et vous, Laurence, vous avez fait votre métier de la photo, mais sous un aspect peut-être plus singulier et qu'on connaît moins, puisque vous travaillez au C2RMF, au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, un laboratoire qui se trouve au sein du Musée du Louvre. Alors, en quoi consiste le travail d'une photographe aux côtés des restaurateurs d'œuvres d'art ?
Alors, c'est un travail de photographie scientifique, enfin d'imagerie scientifique. Donc, on travaille dans le visible, mais également dans l'infrarouge, l'ultraviolet. On fait des radiographies pour voir tout ce qui... Enfin, moi, je travaille essentiellement sur de la peinture de chevalet et des arts graphiques. Donc, voir ce qui se cache derrière la couche picturale d'un tableau. Voir s'il y a eu des dessins préparatoires, des repentirs, un autre tableau antérieur. Voir l'état de la toile ou du tableau en bois. Donc c'est vraiment une approche scientifique de l'œuvre. Après, il y a d'autres personnes qui font également des prélèvements, des choses comme ça. Mais nous, avec l'image, on arrive à voir déjà beaucoup de choses. Et donc ça peut permettre aux restaurateurs de voir les restaurations antérieures qui ont été faites. Parce que sous ultraviolet, on voit ces restaurations qui sont en général sur le vernis, qui apparaissent sous forme de taches noires. Également, s'il y a des restaurations beaucoup plus anciennes, on les voit en infrarouge. Donc oui, on fait un travail vraiment spécifique qui est de l'imagerie scientifique, qui est vraiment différente du travail de Jean-Claude.
Et oui, absolument. Et ce travail et cette recherche photographique scientifique, elle est guidée par la commande du propriétaire ou du musée qui a l'œuvre d'art ou alors par les restaurateurs. Comment on met en place, à quel moment en fait vous intervenez dans le processus
alors,
de restauration?
En fait, on travaille pour tous les musées de France. Hein, ça dépend du ministère de la Culture. Donc tous les musées de France, s'ils veulent faire des restaurations de tableaux, font appel à nous. Et donc, on étudie l'œuvre pour eux. Donc, on a des personnes qui, chacun dans sa spécialité, qui étudient le tableau pour, en vue d'une restauration ou en vue d'une étude ou simplement, ou d'un achat par l'État. Mais voilà, donc c'est tous ces musées qui nous font la demande. On ne travaille pas pour le privé, on travaille vraiment pour l'État, pour le ministère et pour tous les musées de France. Voilà.
Effectivement, le travail de restaurateur d'œuvres d'art, le travail des conservateurs-restaurateurs aujourd'hui a énormément évolué grâce justement aux progrès scientifiques et à toutes les techniques qui sont associées au travail à la fois de recherche sur l'œuvre, mais aussi de restauration.
Oui, tout à fait, ça nous permet justement de voir des choses sans faire forcément de toucher à l'œuvre. Donc, sans abîmer l'œuvre, on peut voir des choses déjà. Et donc, ça permet aux restaurateurs de mieux travailler, de savoir qu'à tel endroit, il ne faut pas faire telle chose. C'est vraiment une aide précieuse pour les restaurateurs, c'est sûr. Ouais.
Est-ce que dans le travail en laboratoire, comme ça, quand l'œuvre est décrochée de ces galeries feutrées des musées pour rentrer dans le laboratoire du C2RMF au sous-sol du musée du Louvre, est-ce que sur certaines peintures, il y a des choses vraiment surprenantes qui soient découvertes à partir de ce travail préparatoire qu'est la photographie scientifique?
Oui, on découvre des fois un autre tableau sous le tableau. Il y a certains peintres qui ont voulu, justement, qui ont volontairement, des fois, se sont représentés et ont effacé après ce qu'ils ont fait et pour passer un message. Oui, il y a vraiment des choses comme ça. Après, et des fois, il y a des gens qui disparaissent aussi sur les tableaux. Des tableaux, il y a des portraits avec plusieurs personnes. Des fois, il y en a qui ne sont plus là après, au final, qui ont disparu entre-temps. Voilà, donc il y a et également dans les tableaux plus contemporains, dans le XXe siècle, on peut avoir des choses. J'ai en tête un tableau de Picabia et qui s'appelait « Cherchez d'abord votre Orphée », et donc une peinture moderne, donc peu représentative. Et dessous, on avait vraiment le dessin d'une femme. Voilà, on le voyait vraiment bien à la radio, en infrarouge déjà un petit peu, et en radio encore davantage. On voyait vraiment le corps de la femme complet avec les mains, les pieds, enfin... Le dessin était vraiment dessous, quoi.
Quand on fait ce type de découverte sur un tableau, c'est rare d'avoir une documentation dans les archives de l'artiste qui donne à penser qu'il y a effectivement peut-être un portier derrière, quelque chose ou un travail préparatoire. Donc effectivement, là, on se retrouve en tant que restaurateur et personnel scientifique devant le fait accompli, mais sans pouvoir y mettre de légende, là, pour le coup. C'est rare de pouvoir interpréter.
Je sais que quand j'ai travaillé sur l'atelier du peintre de Courbet, qui se trouve au musée d'Orsay. Donc on a travaillé là sur place parce que c'est un très grand tableau, on ne pouvait pas le déplacer. On espérait peut-être trouver des personnages qui auraient été cachés après. Et on avait trouvé une correspondance de Courbet, justement, et on espérait trouver peut-être des choses où il expliquait. Mais bon, c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'études à faire. Donc c'est les conservateurs, après, qui étudient un peu tout ça, qui font des rapports de l'œuvre. En ayant toutes ces informations, et des fois on a des surprises, des fois oui on retrouve des choses, non c'est passionnant, c'est sûr.
Le rapport à l'image et à la photographie par rapport à votre démarche quand vous êtes rentré à l'école de photo, il s'exprime comment?
Quand je suis rentrée à l'école de photo, c'était il y a très longtemps déjà.
Coquetterie.
Plus de 20 ans. Donc il était, alors je ne savais pas du tout que je ferais un jour de l'imagerie scientifique, ça c'est sûr. J'étais plutôt dans une démarche plasticienne à l'époque, donc mon travail personnel, oui, était plutôt orienté par là. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher que c'est très difficile de vivre de la photo, donc on essaie de trouver quelque chose... qui nous permet de vivre. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Hein. J'ai eu la chance après de découvrir l'imagerie scientifique. Et même avant, j'ai travaillé également aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale de France. Donc j'ai eu des très belles choses entre les mains, des choses historiques aussi, des beaux ouvrages. Donc je ne regrette pas mon parcours de photographe. Bon, c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté mes photos personnelles. Voilà, tout ce que je faisais avant. Mais ça reviendra peut-être. On me dit souvent que ça reviendra plus tard, peut-être. Et puis bon, je suis un peu impliquée aussi dans le travail de Jean-Claude. Donc c'est vrai, quand on fait notre série, enfin quand il fait sa série des quotidiens, je dis ce que j'en pense. Voilà, je lui dis, oh, moi j'aurais plutôt fait un peu comme ça, comme si. Bon, je participe un petit peu quand même, voilà. Donc j'ai un peu l'impression de faire un travail... personnel quand même à côté, voilà.
Dans les mises en scène, justement, des scènes de la vie ordinaire de Jean-Claude, vous l'abordez comment, justement, ce rôle d'être devant l'appareil photo? C'est plutôt un rôle cinématographique?
Déjà, moi, je faisais beaucoup d'autoportraits aussi. Quand on était à l'école de photo, effectivement, c'était je faisais du portrait, mais je faisais pas mal d'autoportraits, et je m'étais aussi lancée là-dedans, mais vraiment d'une autre manière. Hein. Je faisais à l'époque, j'avais fait un travail des diptyques, en fait, où je prenais des parties de mon corps que je mettais en parallèle avec des parties du corps de ma mère. Donc, pour un peu, pareil, toujours la question du temps, l'évolution, le changement du corps. Donc, voilà, j'avais fait un travail là-dessus. Donc, pas similaire, mais quand même un peu dans l'autoportrait, déjà. Donc, je n'ai pas de mal à jouer ce rôle voilà, de compagne. Et ce que j'aime bien dans les photographies, c'est que les gens ne savent pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et dans le lot des images, il y a des images qui sont vraiment qui ont vraiment existé, enfin des situations qui ont vraiment existé, et d'autres qui sont complètement farfelues. Mais ce qui est bien, c'est que les gens ne savent pas lesquelles sont les vraies et lesquelles sont les fausses. Donc j'aime bien ce côté voilà, de jouer un jeu, et des fois c'est la vérité, mais les gens ne savent pas.
Merci Laurence Clivet. Dis-moi Valentin, ils sont bien joueurs tes parents, je trouve. Ils font que s'amuser finalement ces parents.
Bah oui.
Et toi tu participes comme ça, t'en as pas ras-le-bol d'être pris en photo?
Un peu, mais ça va. On s'habitue.
On s'habitue. En tout cas, tous les trois, merci beaucoup d'être venus. J'ai le sentiment que vous êtes tous les trois sortis d'une de vos photos. Et ça me fait toujours très, très curieux quand je me remets en situation aussi de visiteur de l'exposition, de voir les trois personnages sortir de l'image et être là comme ça devant moi. Montrez-vous bien au micro que les auditeurs vous voient. Voilà, voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Merci, merci.
Donc merci Jean-Claude Delalande, Laurence Clivet et Valentin d'avoir bien voulu partager ce bout de chemin avec nous. L'exposition Scènes de la vie ordinaire était un beau moment vraiment de la clôture de la saison d'exposition dans le réseau des médiathèques de la communauté d'agglo-héros Méditerranée. Les curieux pourront poursuivre la rencontre sur le web à l'adresse suivante, Jean-Claude Delalande, toutattaché.ue. Merci aussi à Guillaume Guéraud en special guest au bout du fil. Vous trouverez son dernier roman Shots paru aux éditions du Rouergue en librairie ainsi qu'à la médiathèque Edmond Charlot de Pézenas. On vous recommande chaudement de le dévorer bien installé au bord du lac du Salagou ou au bord de la mer. Cette émission était conduite par Sainte-Colette et tractée par Toff, Mille Bisettes, et à bientôt sur les chemins de traverse de Radio Pays d'Hérault.